bougeux.
Ah, bon, c'est d'accord.
Complètement à l'Ouest, une émission animée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Bonjour, bienvenue dans Complètement à l'Ouest, qui vous fait découvrir et parcourir le monde sous un regard totalement différent. Aujourd'hui, c'est la forêt qui nous occupe, pas pour s'y promener comme on aime le faire, mais parce qu'elle s'est enflammée autant dans les pays chauds que dans les pays froids. En Asie comme en Amérique du Sud, les conséquences sont désastreuses pour le climat. Les forêts tropicales stockent le carbone quand elles brûlent. Elles rejettent d'immenses quantités de CO2 dans l'atmosphère. Et ce matin, c'est un cri que je lance à Philippe Boyer. Philippe, je veux respirer. Bonjour et bienvenue mon Philippe.
Bonjour Billy, bonjour Billy. Nous allons respirer.
J'espère.
Souvenez-vous, c'était il y a quelques mois une surface équivalente aux Pays-Bas entièrement dévastée, une trentaine de victimes et plus d'un milliard d'animaux exterminés. Je veux bien sûr parler des incendies qui ont ravagé le sud-est de l'Australie jusqu'au mois de décembre dernier, des méga-feux qui ont réduit en cendres près de 6 millions de kilomètres carrés.
Les services de secours sont à pied d'œuvre en Australie dans des conditions dantesques. Ici, les pompiers tentent de se protéger dans leur camion en étendant des couvertures sur les fenêtres. Ce 31 décembre a été l'une des pires journées depuis le début des incendies en septembre. 3 personnes sont mortes au cours des dernières heures. Au moins 5 personnes sont portées disparues. Au total, 5,5 millions d'hectares sont partis en fumée, l'équivalent des Pays-Bas.
18 ans avant Greta Thunberg, Jacques Chirac avait secoué la communauté internationale avec son discours sur le sort de la Terre. « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». C'était en 2002, au sommet de la Terre de Johannesburg, en Afrique du Sud. Son cri pessimiste lancé devant l'Assemblée plénière avait, c'est le moins qu'on puisse dire, marqué les esprits. Écoutons.
« Le réchauffement climatique est encore réversible. Lourde serait la responsabilité de ceux qui refuseraient de le combattre. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
C'est pour parler de réchauffement climatique et de TGF, acronyme pour désigner les très grands feux, qui font de plus en plus la une de l'actualité, que Joël Zask est l'invité de Complètement à l'Ouest. Joël Zask est philosophe et maître de conférences à l'Université de Provence. Elle est l'auteur d'un passionnant essai, « Quand la forêt brûle, pensez la nouvelle catastrophe écologique » parue il y a quelques mois aux éditions Premier Parallèle. « Quand la forêt brûle », c'est notre sujet du jour. C'est parti, droit devant, larguons les amarres et cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, Philippe Boyer.
On est parti avec votre invité, mon cher Philippe. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est un petit peu plus, pas pessimiste, hein. On est là pour éduquer, pour informer nos auditeurs, mais on est un peu moins dans la légèreté.
Oui, c'est vrai.
C'est un sujet que vous avez voulu.
Pour autant, il faut parler de cette forêt qui brûle. Et pour cela, donc, Joël Zask est avec nous. Merci beaucoup pour votre présence à ce micro aujourd'hui.
Bienvenue. Merci d'être
là. Bonjour.
Alors, en 2017, le Groenland a brûlé tout au moins des plaines enneigées. À l'été 2018, ce fut au retour des forêts de Suède et de Sibérie jusqu'au cercle polaire, sans parler des gigantesques feux en Amazonie, mais aussi en Californie, où d'ailleurs la bien nommée ville, le Paradise, est partie en fumée, sans parler aussi de la Grèce, du Portugal, de l'Espagne, et puis, plus récemment, on le disait tout à l'heure, c'est presque 6 millions de mètres carrés évaporés en Australie. En quoi ce phénomène des méga-feux sont-ils nouveaux et surtout, que nous apprennent-ils ?
Alors, ils sont nouveaux à beaucoup de titres. D'abord, il a toujours existé des feux catastrophiques, mais là, les feux sont presque tous catastrophiques. C'est-à-dire que ce qui était exceptionnel est devenu la règle. Et on peut dire qu'on est rentré dans un nouveau type de régime de feux. C'est-à-dire que ces feux qui ont lieu aujourd'hui, il me semble, sont vraiment très différents des feux saisonniers, des feux réguliers, des feux d'entretien, de l'éco-buage, et des feux auxquels on était habitués dans le passé. Même si, évidemment, il a existé des feux catastrophiques, ceux-ci finalement donnaient lieu ensuite à des phases de récupération suffisamment longues pour que les forêts se régénèrent. Mais quand j'ai commencé ce travail il y a 2 ans et demi, la vulgate c'était « mais en fait tu t'inquiètes du feu, mais le feu c'est bon pour la forêt, le feu ça fait partie des cycles naturels. Et donc c'est peut-être triste à notre niveau, mais en fait on a besoin des feux ». Or, ce qui m'avait frappé, c'était le point de départ de mon travail, c'est que justement, il y avait quelque chose de hors énorme, quelque chose de pas naturel, quelque chose de mauvais, à la fois pour la forêt et pour ceux qui fréquentent la forêt, dans ces feux d'un type nouveau. Donc, ce qu'ils nous apprennent, à mon avis, alors ça c'est une grande question, ce qu'ils nous apprennent, c'est déjà, à mettre le nez sur l'émergence des nouvelles réalités. Je crois que c'est, il y a un vrai problème de rendre visible le réel. Il s'interpose entre nous et la réalité, quantité de filtres, quantité de préjugés, quantité de préconceptions qui font que finalement on n'arrive pas trop à déceler justement ce qui fait irruption pourtant dans le champ de la réalité. Et ce qui est assez frappant, c'est que par exemple la participation des feux dont vous avez évoqué en quelques mots l'importance au réchauffement climatique lui-même, finalement est-ce que ça a vraiment fait partie des scénarios envisagés par le GIEC et toutes les agences, les plans d'adaptation au changement climatique, les agences de surveillance du climat? Pas vraiment en fait. Or ce phénomène du méga-feu, il est massif. Donc c'est déjà ça que ça nous apprend. Ça nous apprend à nous dire, nous en tant que citoyens parfaitement ordinaires, non spécialistes, ouvrons les yeux. Qu'est-ce qui se passe finalement? Est-ce que les scénarios tels qu'ils sont médiatisés, envisagés, sont les bons? Est-ce qu'on n'a pas un rôle à jouer dans l'identification de ce qui est en train de se passer? Donc ça c'est un travail philosophique, mais je dirais que c'est un travail du sens commun, c'est un travail du citoyen ordinaire aussi. Et cette vigilance-là, elle me semble être motivée aussi par cette expérience du méga-feu.
Qu'est-ce que vous attendez?
Le méga-feu est vraiment un accélérateur d'opinion, un accélérateur de conscience. C'est comme ça que je l'ai envisagé.
Vous avez cité le citoyen lambda, on en fait partie. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Déjà, ce qu'on peut faire, c'est voir les choses comme elles sont. Et voir les choses comme elles sont suppose de se libérer alors de deux idéologies qui me semblent être aussi mises en exergue par le méga-feu et qui semblent antagonistes alors qu'elles sont en fait complices. C'est d'abord l'idéologie, je dirais, dominatrice. L'idée que finalement la nature doit nous être soumise et que l'espèce humaine se développe d'autant mieux qu'elle soumet, qu'elle domine, voire qu'elle détruit la nature, voire qu'elle se substitue à elle. C'est-à-dire qu'elle crée une technique qui permet de s'en passer. Ça a été le cas, par exemple, de l'agriculture industrielle. L'idéal de l'agriculture industrielle, qui s'est évidemment traduite par une destruction des sols, et une destruction de la biodiversité, mais et aussi une destruction des capacités nutritives des aliments, enfin, tout ça, il faut le dire. Mais en tout cas, cette agriculture industrielle avait pour ambition de remplacer la terre, le sol, par une soupe d'intrants, par
une
soupe chimique.
C'est une domination de la nature, en l'occurrence.
C'est même une substitution, ça va plus loin, on peut s'en passer. Ce qui est d'ailleurs un certain idéal du transhumanisme, c'est de se passer de la nature, de faire mieux qu'elle. Et puis vous avez à l'opposé une autre idéologie qui est très présente, qui est, je dirais, préservationniste, non pas extractiviste, mais préservationniste. Et là, c'est plutôt une idéologie romantique, l'idée que la nature se porte bien.
C'est le laisser-faire.
C'est un laisser-faire, oui, qui peut avoir une résonance éducative ou politique ou économique. Mais c'est aussi cette idée que finalement, la présence humaine esquinte la nature et qu'il y a un antagonisme finalement entre l'homme et la nature. Que plus on va laisser la nature tranquille, plus elle sera authentique, originelle et plus elle sera elle-même, plus elle sera équilibrée en quelque sorte. Donc, en fait, ces deux... Là, enfin, récemment, à propos des feux en Amazonie, on apprend avec de plus en plus de détails que, disons, les responsables des méga-feux amazoniens qui ont préparé leur coup un an en avance. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire sur ces questions-là. Donc, ces responsables des méga-feux qui ont une perspective extractiviste, c'est-à-dire qu'ils veulent transformer la forêt en stock de ressources et faire de la place à des cultures rentables, en même temps sanctuarisent des poches de nature. C'est-à-dire, en même temps, achètent de vastes zones dont ils énoncent que ce sont des parcs naturels, mais qui sont leur propriété privée. Donc, ils ne sont pas fous, si vous voulez. Et en fait, on voit que le préservationnisme et l'extractivisme, d'une certaine façon, là, dans le cas précis, là, je cite un exemple concret, marchent main dans la main. Et donc, l'objet de mon livre, c'est de dire... comment on sort finalement de cette alternative qui est fausse, qui est mensongère, qui est illusoire et qui, sur le terrain, est vraiment productrice non seulement d'inégalités monstrueuses et d'injustices, mais également de l'accélération, de la destruction, je ne dis pas de la planète qui nous survivra, mais en tout cas de nos conditions d'existence humaine sur la Terre.
Vous expliquez dans votre livre que face à ces méga-feux, justement, apparaît une rhétorique guerrière. Il faut abattre, il faut combattre ces feux. Et finalement... Est-ce que plutôt que guérir, ne faudrait-il pas prévenir? Et en d'autres termes, et pour que ces méga-feux soient moins nombreux, ne faudrait-il pas plutôt miser sur la prévention, c'est-à-dire mieux entretenir la forêt?
Oui, c'est ça. Et donc cette prévention tombe exactement dans le domaine, cet espace en fait que je viens d'énoncer, entre préservationnisme et extractivisme. Il s'agit, d'être présent pour la forêt. Je veux dire que la forêt, comme le montre Stephen Pine, et d'une manière générale, le paysage terrestre dans sa quasi-intégralité, a été façonné par les usages anthropiques du feu, c'est-à-dire par l'utilisation du feu au profit des activités humaines, ou par les activités humaines. Depuis 1,6 million d'années, la Terre est transformée par ces usages anthropiques du feu. Partout où les hommes ont été, ils ont transformé, ils ont emmené les flammes avec eux et ils ont brûlé les paysages. Ce qui n'a pas été sans incidence, évidemment. Mais on peut dire que là, depuis au moins 60 000 ans, un certain équilibre avait été trouvé, ou même depuis 1,6 million d'années. Donc un certain équilibre, des évolutions plutôt lentes. Certes, des animaux ont disparu, des plantes ont disparu, d'autres sont apparues. Mais on peut dire que au fur et à mesure, les hommes ont appris à faire avec la forêt, à être là pour elle. Et donc, cette forêt est habituée, d'une certaine façon, à la présence des hommes, de même que la terre est habituée à celle des vers de terre. Si vous voulez, vous enlevez les vers de terre, il n'y a plus de terre. Mais vous enlevez les hommes de la forêt, il y a un vrai problème. Et ce problème est vraiment, tout à fait pris en charge, justement, par les cultures anciennes, la paysannerie, les forestiers, les bûcherons, les autochtones, les Premières Nations, les Indiens, Amérindiens, qui vous voudrez, qui ont, justement, dans leur culture, un art de cultiver la forêt, d'une certaine façon. Et cet art de cultiver la forêt est vraiment perdu, à la fois à cause de l'extractivisme, donc qui remplace cette forêt diversifiée et célébrée en même temps par ce qu'on appelle un désherboisé, ou via par des friches destinées à recevoir des plantations industrielles, mais elle est aussi condamnée par le préservationnisme qui interdit justement l'intervention de ces peuples barbares, jugés sauvages, archaïques, arriérés, qui n'y connaissent rien, qui abîment le paysage, et donc dont il faut stopper les pratiques. Donc l'un dans l'autre, si vous voulez, cette conservation, préservation de la forêt qui la transforme en un habitat à la fois humain et pour toutes les autres espèces, est quelque chose qui est vraiment à l'horizon de la prévention. C'est de cette manière qu'on peut prévenir les méga-feux.
Alors, il n'empêche que les méga-feux existent, et on citait tout à l'heure l'une des causes qui est le fait, en effet, de vouloir surexploiter la forêt. Il y a bien sûr aussi le réchauffement climatique. Est-ce que la surexploitation de la forêt et le réchauffement climatique sont les deux causes principales de ces TGF, de ces très grands feux ?
Alors, il y en a plusieurs, et en fait, on a affaire à de vrais engrenages. C'est-à-dire qu'effectivement, le réchauffement climatique est favorable au dessèchement de la végétation, mais favorable également à l'augmentation des températures, favorable de ce fait à l'invasion de nuisibles qui vont produire beaucoup de bois morts. C'est le cas en particulier en Californie, mais c'est le cas aussi dans nos forêts de la Drôme, qui sont ravagées par la pyrale du buis. Et la pyrale apparaît avec le réchauffement, et avec des stress hydriques particuliers. Donc, par ailleurs, les méga-feux, ça on l'a découvert, ou on l'a mieux objectivé avec l'Australie, ils génèrent leur propre climat, dont en particulier des vents qui se déchaînent et qui sont entretenus par les flammes. Donc finalement, là aussi, il y a un engrenage, parce que le vent... Enfin, disons, pour qu'il y ait du feu, il faut qu'il y ait du combustible, il faut qu'il y ait de la chaleur, il faut qu'il y ait du vent. Voilà. Et donc là, clairement, le vent est un facteur absolument aggravant. Et par ailleurs, bien sûr, toutes les activités industrielles qui fragilise la forêt, contribue indirectement ou directement, évidemment, à sa consommation, à sa perméabilité, en quelque sorte, au feu. Mais par ailleurs, le complexe industriel du feu que vous avez mentionné tout à l'heure, à savoir le développement de technologies destinées à lutter contre cet ennemi à battre que serait le feu, est évidemment de l'ordre de cette idéologie conquérante et qui contribue bien sûr à l'émission de gaz à effet de serre, qui contribue au réchauffement, etc. etc. Donc en fait on est là dans des engrenages sans fin et le livre que j'ai fait était destiné à
décrire cet engrenage.
À le décrire bien sûr et puis aussi à éventuellement évoquer des pistes pour en sortir.
Eh ben on va y revenir dans ces pistes, sur ces pistes parce qu'elles sont très importantes pour l'avenir de notre planète, on est tous concernés, même si on se dit fleur de béton, fille des villes, on est aussi de la campagne. Et sans les arbres, sans la nature, on ne peut pas vivre. Mais tout de suite, on va, vous le savez, comme d'habitude, dans Complément à l'Ouest, eh bien, on va ouvrir notre tête sur des idées et sur du voyage, que voir, que visiter, où aller. C'est maintenant avec Carnet de Voyage.
Complètement à l'Ouest, Carnet de Voyage.
Alors on va parler, Philippe, et voir des paysages, donc des forêts, grâce au musée Jacquemin Randré, qui à compter du 13 mars prochain, va présenter une rétrospective du peintre anglais William Turner. C'est le plus grand représentant de l'âge d'or de l'aquarelle anglaise, et grâce à son coup de pinceau, il a su exploiter les effets de lumière et de transparence sur les paysages anglais ou encore les lagunes vénitiennes. 60 aquarelles, 10 peintures à l'huile, dont certaines n'ont jamais été présentées en France, seront visibles à Paris pour cette très très belle exposition à ne pas manquer. Turner, peinture et aquarelle, collection de la tête, c'est du 13 mars au 20 juillet 2020 au musée Jacquemin Randré. Ça se trouve 158 boulevard Haussmann dans le 8e arrondissement de Paris. Vous n'avez aucune excuse, même si vous allez en voiture, il y a un parking juste en face.
Alors on reste dans la nature et dans les arbres avec cette initiative du château de Versailles qui propose une forme de mécénat original puisqu'il s'agit d'adopter un chêne. Pour replanter l'allée de Saint-Cyr, le choix des jardiniers s'est arrêté sur un chêne particulier, en l'occurrence une espèce forestière réputée pour sa longévité et sa grande résistance. C'est d'ailleurs sa feuille qui est associée depuis le XVIIIe siècle au mérite et à la victoire. Alors comment adopter un arbre,
c'est
un
chêne ? Bonne idée ça.
Particulier ou entreprise, vous pouvez faire un don et adopter un ou plusieurs arbres. L'adoption d'un arbre s'élève à 1000 euros. Cette somme couvre l'achat, le transport, la plantation et l'entretien de l'arbre pendant 2 ans. Il faut dire qu'après déduction fiscale, il ne vous en coûtera que 340 euros si vous êtes un particulier et 400 euros si vous êtes une entreprise du fait de réduction d'impôts. Si vous souhaitez en savoir plus, c'est tout simple. Connectez-vous sur le site châteaudeversailles.fr.
Et la nature en ville, elle existe également, biodiversité urbaine. C'est le nom d'une exposition qui se tient jusqu'au 5 juillet 2020. Et je vous emmène avec moi, Philippe, vous rêviez d'un week-end, on y va. C'est au muséum Henri Lecoq à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Il n'y a pas que les volcans, puisqu'il s'agit de se pencher sur la biodiversité de nos villes en découvrant plus d'une centaine de spécimens animaux et végétaux présentés au sein d'une ville reconstituée. L'exposition présente des représentations de la ville et de demain via un espace ludique qui permet aux visiteurs d'imaginer et de représenter leur propre vision de la ville dans laquelle la nature tiendra une place plus importante. Je trouve que c'est une très très belle initiative, c'est au muséum Henri Lecoq, 15 rue Bardou à Clermont-Ferrand ou alors via le site internet clermont-auvergne-tourisme.com.
De la nature, il en est aussi question dans nos assiettes avec une exposition passionnante et très originale baptisée « Je mange, donc je suis » au Musée de l'Homme à Paris. Les pierres taillées dans les cavernes à la porcelaine des dîners à l'Élysée, des galettes de blé du néolithique au repas en poudre des cosmonautes, des offrandes de Papouasie-Nouvelle-Guinée au néon du supermarché. Il y a à voir et à manger dans cette exposition qui retrace l'histoire de la cuisine et donc de notre rapport à la nature dans toutes ses dimensions. C'est un véritable délice. Je mange, donc je suis, c'est jusqu'au 1er juin 2020 au Musée de l'Homme. C'est à Paris, dans le 16e arrondissement, 17 place du Trocadéro.
Et vous l'avez dit, je pense donc, je suis, nous pensons ce matin à la forêt, à la nature. Et Philippe, on vous retrouve avec votre invité, Joël Zaks, pour cette émission dans laquelle on parle vraiment de cette forêt. Joël, j'aurais une question mais stupide, mais je n'arrive pas à ne pas vous la poser. Une forêt, même s'il fait 50 degrés, si la main de l'homme n'est pas là pour faire un feu ou déposer un mégot, la forêt ne brûle pas?
Alors, il est vrai que 85 à 98% des feux de forêt sont provoqués par l'activité humaine ou par une activité humaine. Mais ça peut être aussi la simple étincelle produite par le passage d'un train sur un rail. Ça peut être des lignes électriques défectueuses. Ça peut être peut-être un tesson de bouteille.
Ou un éclair, suite à un orage.
Alors là, ce sont les causes naturelles, par contre. L'éclair, voilà, c'est en fait l'éclair partant d'orage sec et la foudre, voilà, est la cause naturelle la mieux identifiée. Il n'y en aurait pas d'autres. Donc, effectivement... pour que les feux ne se produisent pas d'eux-mêmes et de manière autogénérée, il faut qu'il y ait une cause, il faut qu'il y ait un déclencheur, il faut qu'il y ait une première étincelle et elle est toujours allumée. Cela dit, il y a des gens un peu partout et les feux se propagent extrêmement vite. Oui. Ils peuvent aller à une telle vitesse qu'ils vont couvrir des dizaines de milliers d'hectares finalement en très peu de temps. Et du coup, leur vitesse même de propagation est telle que, surtout quand il y a des formes de tornades, de tempêtes, de tsunami de feu qui se forme, que finalement, la seule réaction raisonnable possible, c'est la fuite. Et la fuite
Philippe.
Rapide possible.
C'est vrai, on parle souvent de technologie ou d'innovation dans cette émission. Et est-ce que finalement, pour venir à bout de ces méga-feux, est-ce que la technologie peut être une véritable aide? J'entends par là big data, des capteurs thermiques, des drones, des exosquelettes, bref, toutes ces innovations censées mieux prévenir les incendies et faciliter surtout le travail des sauveteurs et des pompiers. Est-ce que la technologie peut aider à maîtriser ces TGF, ces très grands feux ?
À l'heure actuelle, les maîtriser, les dominer, non. En tout cas, c'est ce qu'on a finalement entendu en termes d'aveux pendant les feux en Australie. Tous les observateurs, les pompiers qui sont venus à la rescousse, etc., sont revenus en disant « on ne peut rien faire ». Les pompiers sur place ont dit « on ne peut rien faire ». La seule chose qu'on peut faire, c'est aider les gens, les convaincre de partir avant qu'il soit trop tard. Et de fait, il y a eu relativement peu de victimes, si l'on peut dire, même si, bien sûr... beaucoup d'animaux et beaucoup de biens ont été détruits. Mais le fait est que, disons, à l'heure actuelle, on ne peut jamais savoir exactement ce que l'avenir nous réserve, mais à l'heure actuelle, la lutte contre le feu qui engrange, enfin qui, disons, qui absorbe une énorme partie des budgets destinés aux forêts et aux parcs naturels, cette lutte contre le feu, cet armement en quelque sorte de plus en plus sophistiqué ne sert à rien sur le terrain, ou en tout cas pas à grand chose, sinon à protéger parfois quelques maisons. Mais en revanche, la technologie est très utile pour donner une image, un peu comme le font les capteurs de la NASA, pour donner une image de ce qui est en train de se passer, pour établir un planisphère des feux, et pour justement servir de cet accélérateur d'opinion qui est un peu en train de jouer la carte du déplacement du coronavirus aujourd'hui, qui est également établi par des méthodes un peu similaires. À savoir, on voit en temps réel, en quelque sorte, la manière dont les foyers se développent, se rapprochent. Et du coup, on peut prendre conscience de la gravité et à la fois du phénomène planétaire que sont les méga-feux, et du coup, agir en conséquence. Moi, ça me semble être aussi un bon moyen de diriger le regard des gens vers des solutions à l'opposé des climato-sceptiques, de solutions qui prennent en charge vraiment le problème climatique aujourd'hui et qui se rénovent elles-mêmes, qui se réforment.
Alors la presse mondiale s'est fait l'écho, on en parlait tout à l'heure, de ces méga-feux lointains en Australie, en Amazonie, en Sibérie. Et pour nous autres Européens, et Français en particulier, on peut avoir l'impression que tout se passe un peu loin de chez nous. Alors sans virer dans un scénario trop noir, trop apocalyptique, pensez-vous que ces méga-feux tels qu'on les a vus en Australie, en Amazonie, pourraient aussi quelque part nous atteindre en Europe et singulièrement en France ?
Ah mais de toute façon, il y en a eu de fait en Grèce, au Portugal, en Espagne, dans le sud de la France, en Corse. Donc non, on sait qu'on est tout à fait exposé. On le sait depuis assez longtemps pour avoir déjà pris un certain nombre de mesures de prévention. Et de fait, il existe un très grand nombre maintenant de collaborations, de centres de recherche sur le feu et en même temps de techniques sur le terrain pour que la vigilance à la fois des citoyens et des spécialistes soit activée en permanence.
Notamment dans le sud de la France.
Notamment dans le sud de la France. Maintenant, ce que nous apprennent aussi ces méga-feux, c'est que les pays du Nord sont tout aussi exposés, voire plus que les pays du Sud. C'est-à-dire que ces catastrophes liées au changement climatique qu'on réservait plutôt aux pays pauvres, aux pays sous-développés, aux pays technologiquement faibles, etc., sont en réalité, finalement, plutôt mieux préservés que les pays du Nord, c'est-à-dire les pays les plus pollueurs. Et je crois que ce renversement-là doit nous alerter aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, le sentiment de distance est complètement erroné parce que les feux sont à notre porte. Le plan d'adaptation au changement climatique prévoit que 50% du territoire français et des villes françaises seront exposées au risque de méga-feux d'ici 2050. Donc on est vraiment là disons, à un instant T où il faut absolument prendre des mesures et réfléchir à ce que signifie avoir une maison dans les bois, débroussailler, démaquiser, faire des opérations collectives pour prendre en charge la portion de paysage qui est à proximité des lieux qu'on aime et de notre maison, etc. Il y a vraiment des tas de choses à faire, mais... effectivement, l'idée que ça n'arrive qu'aux autres est la pire idée qu'on puisse avoir.
Alors, vous le savez, dans Complètement à l'Ouest, on essaye d'avoir une musique qui colle avec le sujet. Et là, je suis ravie parce que, Philippe, vous avez choisi de réécouter. On est en 1987, ils sont australiens. C'était le premier groupe de rock qui était écolo, ils le disaient. Donc, c'était Midnight Oil. Avant, ils s'appelaient The Farm, La Ferme. Et puis, ils ont changé le nom. Ça a donné Beds Are Burning. On en reparle dans 3 minutes.
Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact, it belongs to them. Let's give it back.
Midnight Oil, nous étions en 1987, ils viennent d'Australie, ils ont été touchés cette année. C'est vrai que l'Australie a bien morflé. Et puis le chanteur Peter Garrett de Midnight Oil, que vous aviez peut-être oublié, pourtant c'était un tube mondial. Sachez qu'il est ancien ministre de l'Environnement d'un des gouvernements de son pays, l'Australie. Et d'ailleurs, avec les feux qui se sont déroulés, on pouvait lire la semaine dernière, c'était le 17 janvier, dans le Parisien, en France, eh bien, une interview de Peter Garrett qui reprochait, qui accusait même le gouvernement australien actuel d'avoir minimisé les risques d'incendie. Et lui, il l'a chanté avec passion sur scène. Il a fait son boulot de ministre. Aujourd'hui, il est retraité de la politique, mais il est toujours très, très engagé pour la planète. Philippe, on continue ces méga-feux avec votre invité.
La question qu'on a envie de se poser en vous écoutant sur la propagation de ces méga-feux et ces risques de plus en plus croissants, c'est est-ce qu'on peut sauver la planète en plantant ou en replantant des arbres? Est-ce que c'est la solution pour lutter contre ces méga-feux?
Oui, alors il y a arbres et arbres, il y a forêt et forêt. Et je crois que là, beaucoup de choses ont été dites et doivent être précisées. C'est-à-dire que si on plante effectivement des forêts qui vont ressembler à des champs de maïs, ça ne va certainement pas et nous aider à lutter contre la propagation des méga-feux. La seule manière de lutter contre les méga-feux en termes de reforestation, c'est justement d'entretenir et de recréer des forêts complètement diversifiées, ce qui suppose des savoirs aussi, des compétences et des goûts peut-être aussi complètement diversifiés. Donc c'est vraiment en mettant ensemble des espèces, mais en mettant ensemble aussi des gens, des savoirs, des cultures, des peuples, qu'on va pouvoir produire une forêt résistante au feu.
Philippe, c'est le chrono qui brûle, mais je ne voudrais pas qu'on quitte Joël sans la toute dernière question que vous aviez prévue.
En effet, c'est peut-être sur le fait, on voit de plus en plus dans les programmes municipaux des sujets de reforestation urbaine.
Mais je pense qu'on s'intéresse à la forêt au moment où elle brûle, et il faut nous alerter justement sur cette corrélation. Plus il y a d'arbres, plus ça brûle, comme disait Trump. Bon, alors, sans être cynique, la question c'est comment planter des arbres de manière à solidifier, renforcer la forêt contre le risque du feu. Et là, la réponse n'est pas du tout évidente. Je pense que mettre des arbres au contact des maisons n'est pas forcément la bonne idée. En même temps, encore une fois, planter des arbres qui, par exemple, des résineux qui encouragent le feu parce qu'ils sont huileux et forment un très très bon combustible, n'est pas non plus la bonne idée. Donc il y a des arbres qui sont en quelque sorte adapté au feu.
Tout dépend
donc,
de l'essence. Une tout petite maison sous les pins, il faut faire attention.
Ah oui, ça, bah personnellement, voilà.
Pourtant, c'est un rêve. Hein.
Mais en revanche, la forêt dans la ville peut être aussi un moyen de rafraîchir la ville.
Ouais, ça aussi. Peut être un moyen de lutter contre le réchauffement. Absolument, les forêts, disons, le couvert végétal climatise la ville et lui fait perdre 2 à 3 degrés en moyenne.
Donc Joël, c'est très important. Venir, hein. Joël, il faut qu'elle revienne. Vous êtes d'accord, Philippe ?
Vive la forêt.
Bah oui, parce que c'est la fin de cette émission déjà.
Merci infiniment, Joël Zask, d'avoir été notre boussole pour cette émission passionnante et qui, à quelques semaines du printemps, et puis la saison estivale, donne véritablement à réfléchir sur la préservation de nos ressources naturelles et en premier lieu de nos forêts. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « Quand la forêt brûle, penser la nouvelle catastrophe écologique » paru aux éditions Premier Parallèle. C'est un essai à lire absolument. Merci Billy, merci à toute l'équipe de Radio Immo qui a œuvré à la préparation de cette émission. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. En attendant, comme toujours, je vous rappelle que cette émission peut être réécoutée en podcast sur le site de Radio Immo et sur tous les players de podcast. D'ici là, bon vent, cap à l'Ouest, Complètement à l'Ouest.
Ouais, là, tiens bon là-bas, tiens bon le vent.
Alors, promets-moi de ne pas bouger. Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'Ouest, présenté par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Une émission à réécouter et à télécharger gratuitement sur le site radio.imo.